Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au changement climatique et à l'hydrodiplomatie au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient qui est sans doute parmi les régions du monde les plus impactées par l'augmentation des températures, non pas en termes de montée des eaux comme cela peut être le cas dans certaines régions d'Asie, mais plutôt sur le registre de la raréfaction, alors que les périodes de chaleur et de sécheresse sont plus longues et que la croissance démographique y est importante et l'urbanisation croissante. Eau, paix et sécurité, une trilogie dont commence à s'emparer l'ONU, notamment sous l'impulsion du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, une question éminemment géopolitique face au constat que dans le monde, 9 pays se partagent 60% des réserves d'eau mondiales. Nos invités, Fadi Comer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau, président de la commission de négociation pour le Jourdain et l'Oronte, auteur de Gestion et hydrodiplomatie de l'eau au Proche-Orient, paru aux éditions L'Orient le Jour. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Berthelot, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur de géopolitique, directeur de la revue Orient Stratégique et auteur de Le Jourdain entre guerre et paix, paru aux presses universitaires de Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
L'eau, ressource la plus affectée par le changement climatique, considérée comme en étant le marqueur le plus évident, elle a été négligée par la diplomatie climatique. Est-ce qu'elle est en train, l'eau, de prendre sa revanche? Et est-ce qu'on peut dire qu'il est à nouveau possible de parler de l'eau au Proche-Orient? Fadi Comer.
Alors, concernant donc la problématique de l'eau au Proche-Orient, moi, je trouve que maintenant, le Proche-Orient, il passe par une phase de conflits géopolitiques assez complexes. Et dans cette phase-là, l'eau, bien sûr, est un élément important pour instaurer la paix dans la région du Proche-Orient. Encore faut-il que, pour faire la paix, il va falloir travailler sur deux facteurs importants, le facteur des réfugiés. Le facteur des réfugiés, la problématique des réfugiés palestiniens et la problématique des réfugiés syriens qui sont partagés entre le Liban et la Jordanie, deux pays qui font partie des pays riverains du Jourdain. Et la problématique de l'eau vient donc dans le vif du sujet actuel, car ces réfugiés qui sont donc en Jordanie et au Liban utilisent de l'eau transfrontalière, de l'eau du bassin du Jourdain, de l'eau du bassin de l'Oronte. Et dans la mouvance de la COP21-22, certes, il n'y a pas eu des sessions spécifiques au problème de l'eau, mais l'eau a été discutée dans le cadre du pacte de Paris. Le pacte de Paris, c'est un pacte qui a été signé par plus de 70 ministres du monde entier, et c'est un pacte qui parle donc et qui retrace donc les étapes qu'on doit donc appliquer afin de lancer une dynamique autour de l'hydrodiplomatie dans les bassins transfrontaliers. Tout d'abord, il va falloir constituer des agences de bassin, des agences régionales de bassin, afin que tout le monde participe au partage de l'eau, que ça soit le Jourdain ou autre. Donc autour du Jourdain, il va falloir que les Arabes et Israël oublient leur contentieux territorial, leur contentieux de géopolitique assez complexe, tournent une page et pensent aux futures générations, aux générations nouvelles, aux jeunes, comment assurer une eau pour ces générations-là qu'avec le changement climatique, cette eau devient de plus en plus rare. Il va falloir gérer la rareté sur le Jourdain.
On développera sur la question à proprement parler du Jourdain. Pierre Berthelot, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il est à nouveau possible de parler de l'eau au Proche-Orient?
Je crois qu'on n'a jamais cessé d'en parler. Mais ce qui est vrai, c'est que, pour abonder dans le sens de Fadi Comer, il y a une nouvelle réalité géopolitique, en grande partie liée à ce qu'on a appelé les révolutions ou les printemps arabes. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une question importante, sinon stratégique, parce que la question se pose, par exemple, en Irak, notamment à Mossoul, qui actuellement est assiégé pour faire chuter Daesh. Et on pense que Daesh peut-être utiliser cette arme de l'eau pour déstabiliser finalement ses ennemis, voire faire pression sur les populations qu'elle contrôle. On se rappelle qu'en 2014, quand Mossoul est tombé aux mains de Daesh, immédiatement, les forces spéciales kurdes, aidées par quelques services occidentaux, ont pris le contrôle du barrage de Mossoul à quelques kilomètres, parce que c'est un endroit stratégique. Aujourd'hui, à Alep, il y a une crise humanitaire très grave. Là aussi, la question de l'eau se pose. On se demande si on ne va pas peut-être incriminer le régime d'Assad par rapport à les violations du droit international humanitaire. Donc, effectivement, et j'oublie le Yémen. Donc, la réalité, c'est que, voilà, on n'a jamais cessé de parler de l'eau, mais on en parle de façon beaucoup plus accrue, parce que là, ça devient véritablement une question de vie ou de mort pour les populations, alors que jusqu'ici, ce n'était pas le cas. C'était plutôt une question, finalement, de pénurie, plus ou moins aggravée.
Alors, je rebondis, Pierre Berthelot, le Yémen.
Oui, le Yémen, bien, la situation au Yémen sur l'eau déjà n'était pas florissante avant 2011. Incontestablement, elle s'est aggravée à la faveur de la guerre civile qui existe dans le pays. Et là aussi, la situation, elle est dramatique, presque aussi terrible qu'à Alep, où il n'y a presque plus d'eau dans nombreux quartiers, des régions entières. Et d'ailleurs, on voit que l'Arabie Saoudite, on a commencé à l'accuser de mener des attaques indiscriminées contre les civils, contre les infrastructures hydrauliques. Et elle a commencé à revoir un peu son point de vue. Donc on voit qu'effectivement, la question de l'eau n'est pas absente de ces conflits géopolitiques.
Vous écoutez RFI. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Dans le cadre des politiques d'adaptation de l'après COP21, COP22 qui vient de se tenir à Marrakech, pour la Méditerranée en général et plus précisément pour les pays du Moyen-Orient, à la suite donc de leurs adhésions à la déclaration de Paris que vous évoquiez à l'instant, Fadi Khomer, ainsi qu'au pacte de Paris pour les bassins transfrontaliers, quels sont aujourd'hui finalement les enjeux et les défis pour les États du Moyen-Orient afin d'amoindrir les effets des dérèglements climatiques et environnementaux?
Moi, je crois que, comme l'a dit tout d'abord Pierre, il y a l'aspect sécuritaire qui est très important. Donc l'aspect sécuritaire, c'est que l'eau ne devrait pas être contrôlée que par les États et non pas par les hordes ainsi que les milices extrémistes. Donc ça, c'est le premier point, sécuriser l'eau, que ça soit sur le Jourdain ou ailleurs, par les gouvernements respectifs. Et c'est là où il va falloir les mettre tous autour de la table afin de discuter ensemble sur l'avenir du partage de l'eau dans les bassins transfrontaliers. Le pacte de Paris est venu consolider donc cette idée-là, la création d'agences de bassins régionales, la création de bases de données qu'il va falloir partager entre pays riverains et créer aussi une dynamique pour gérer la pénurie de l'eau, car le changement climatique va affecter, pour un réchauffement de 2 degrés, 30% des ressources en eau sur les bassins transfrontaliers. On sait très bien, avec une démographie galopante, avec un changement de mode de vie, les générations futures seraient affectées directement par la gestion de la demande. Deuxièmement, il y a le problème des frontières. Et je sais que Pierre vient d'éditer aussi avec ses collègues un livre assez intéressant sur les frontières dans le monde arabe. On sait que l'eau a toujours été liée à la géopolitique territoriale au Moyen-Orient. Je prends l'exemple du Jourdain. Tout d'abord, donc, le problème et les conflits entre Israël et les pays arabes, c'était des conflits territoriaux. Ces conflits ont commencé par la guerre de 67. Il y a eu une occupation du Golan, il y a eu une occupation donc de la région de la Cisjordanie, et puis en 78, après, il y a eu l'invasion du Liban, c'était l'opération du Litanie. Donc il y a ce lien entre le territoire et l'eau. Le troisième point, c'est la gestion de l'eau, qui est mal pratiquée dans plusieurs pays, et notamment
dans plusieurs pays qui se partagent le Jourdain, une gestion sectorielle, une gestion qui n'est pas basée sur la gestion intégrée, le concept de la gestion intégrée de l'eau par bassin, d'où la nécessité donc d'appliquer un nouveau concept afin de promouvoir donc un développement intégré dans un bassin transfrontalier tel que le Jourdain et essayer de partager cette eau d'une façon équitable entre la population et que l'utilisation de cette eau soit aussi raisonnable selon le concept des Nations Unies de la Convention 1997 des Nations Unies.
Pierre Barthelot.
Oui, je voudrais juste ajouter un point parce que l'essentiel a été dit, c'est que l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on parle toujours comment accroître l'eau disponible dans la région, donc agir sur l'offre, l'offre disponible en eau, c'est une chose certes, mais il faut penser à la demande. Donc, c'est-à-dire l'eau qui est déjà présente, déjà disponible, est-ce qu'on va pas être un peu plus habile dans sa gestion, un peu plus économe? Ça aussi, c'est un enjeu. Prenons l'exemple de nombreuses villes de la région, Amman, la capitale de la Jordanie. On sait que une grande partie de l'eau qui arrive vers la capitale est perdue en cours de route, y compris directement dans les canalisations, parce qu'elles sont pas réparées, parce qu'on n'a pas forcément les compétences techniques, on n'a pas forcément parfois l'argent ou la volonté politique. Donc déjà, arrêtons le gaspillage, ce sera une première chose, même si en parallèle, on peut imaginer comment apporter effectivement un peu plus d'eau, parce qu'on a quand même une pénurie dans plusieurs États. Mais il faut vraiment penser à ces deux leviers avant systématiquement de proposer de nouveaux projets, de nouveaux barrages, etc., etc.
C'est donc pas forcément un accent à mettre sur l'apport supplémentaire en eau, mais ce que vous disiez, Fadi Comer, une meilleure gestion. Le cas du Jourdain, le fleuve sacré du Moyen-Orient. Je ne sais pas si je dispose des bons chiffres, mais pour bien illustrer la situation, ce qui s'y passe et finalement son importance. Il y a 60 ans, le fleuve transportait 13 milliards de mètres cubes d'eau douce. Et aujourd'hui, le débit du Jourdain, il atteint à peine 1 milliard de mètres cubes. On est passé de 13 milliards à 1 en 60 ans. C'est dire l'impact à la fois du changement climatique, des populations grandissantes, entre autres choses. Le cas du Jourdain, Fadi Comer, il met en scène ce fleuve 5 acteurs, Israël, la Cisjordanie, le Liban, la Jordanie et les Syries. De quoi est-il question aujourd'hui avec le bassin du Jourdain?
Tout d'abord, le bassin du Jourdain est un bassin transfrontalier qui est partagé actuellement en principe par 5 pays. Il y a 2 pays à l'amont, c'est le Liban et la Syrie. Donc il prend sa source du mont Hermon et après donc il traverse la Palestine, Israël et la Jordanie. Donc il y a 5 acteurs et parmi ces 5 acteurs, donc il y a un acteur qui n'a pas signé la Convention des Nations Unies
de 1997.
1990, c'est Israël. Et là, je pense aussi à la Turquie qui n'a pas signé la Convention sur la Convention des Nations Unies. Donc ne voudrait pas lancer une dynamique de paix sur l'Euphrate. Donc le Jourdain, donc l'apport il y a 60 ans du Jourdain était d'1,3 milliard de mètres cubes d'eau. Actuellement, dans la mer Méditerranée, dans la mer Morte, il y a pas plus de 20 millions de mètres cubes d'eau qui se déversent dans la mer Morte, qui est donc le bassin situé à l'aval du bassin du Jourdain. Et ce bassin, donc, il perd tous les ans à peu près 90 centimètres de sa hauteur. Et d'ici quelques années, on va faire face à une crise écologique mondiale, qui est la disparition du bassin de la mer Morte. Donc c'est la mauvaise gestion donc qui a été présentée par Pierre, par moi-même. C'est la mauvaise gestion de l'eau qui fait que ce bassin va disparaître. Tout d'abord, la polémique, c'est une polémique territoriale. Pourtant, il y a eu plusieurs initiatives internationales telles que le projet de Johnston qui a vu le jour en 52 et qui a proposé un partage équitable.
En 1952, hein,
Voilà, en 1952, qui a proposé un partage équitable entre les pays riverains, donc les pays arabes et Israël. Malheureusement, il n'y a pas eu une réception positive suite à la proposition des Américains de Johnston, et ce projet donc a été refusé par les pays arabes, je dis malheureusement. Deuxièmement, il y a eu une autre initiative, c'est l'accord d'Oslo en 94. Mmh. L'accord d'Oslo aussi n'a pas été appliqué comme ça aurait dû se faire en fonction des documents qui ont été signés entre la Jordanie et Israël d'un côté et la Palestine et Israël d'un autre côté. Et l'accord d'Oslo, c'est un accord qui n'a pas pris en considération la présence des États amont comme le Liban et la Syrie, qui représente la source du Jourdain. Mmh. Et puis après, il y a eu une autre initiative de paix initiée par le président Clinton. Cette initiative de paix a fait que le président Hafez al-Assad a rencontré Clinton à Genève. Et Clinton, le président Clinton, a proposé à la Syrie de revenir aux frontières de 1967, donc le lac de Tibériade, mais à 5 mètres donc du pourtour du lac de Tibériade. La Syrie a refusé, et c'était aussi dommage de refuser une telle proposition. Donc ce conflit entre les Arabes et les Palestiniens se base sur des animosités depuis très longtemps. Des animosités politiques, des animosités religieuses, des animosités entre un bloc démocratique et un autre bloc totalitaire. Il va falloir maintenant donc oublier tous ces conflits-là et penser à une dynamique de paix dans le cadre tout d'abord du partage de l'eau du Jourdain, partage équitable, avec une gestion de l'eau qui soit une gestion basée sur le concept de l'agir, la gestion intégrée
des
ressources.
Alors, il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie d'émission. Bien sûr, on redéveloppera, mais Pierre Berthelot, finalement, mais de quoi est-il question pour le Liban? Par rapport
au Liban, il y a les fermes de Sheba qui sont occupées par Israël depuis 67. Israël a occupé 4 fermes dans les hameaux de Sheba. Après, elle a annexé en 72 les 14 fermes des hameaux de Sheba. Ça, c'est la problématique territoriale entre le Liban et Israël. Et on sait très bien que les fermes de Sheba constituent un des réservoirs d'un des affluents du Jourdain, qui est le Banias, et un autre affluent qui est le Dan. Donc, il y a 2 affluents qui prennent leur source du Liban. Un troisième point, c'est le Asbani-Ouazani, c'est le troisième affluent. C'est ces affluents qui constituent l'apport de l'eau qui se déverse dans le lac de Tibériade et qui constitue à peu près 20% des besoins d'Israël en matière d'eau douce.
Pierre Berthelot ?
Non, mais ce que je voudrais dire en un mot, c'est que finalement, c'est un problème politique et pas finalement technique, parce que Johnston, l'émissaire de Eisenhower dans les années 50, avait obtenu un accord technique des experts. Donc on voit, on est capable de s'entendre. Mais politiquement, ça aurait abouti à une reconnaissance des pays arabes d'Israël, puisqu'ils auraient été membres justement de cette gestion commune. Et ce n'était pas à l'époque possible, et c'est même encore aujourd'hui difficile, à l'exception de la Jordanie. Donc voilà, la clé, elle est là, elle est pas que technique. On peut avoir les moyens de s'arranger, c'est surtout, avant tout, fondamentalement politique. Et donc, il faut agir sur les 2 leviers. Et c'est comment arriver à cette gestion commune, alors que politiquement, on n'est pas parvenu à avoir un accord. Même si on n'était pas loin, comme l'a dit Fadi Comer, puisqu'il y a eu Oslo, et parce qu'il y a eu également la proposition de Clinton à Assad, au père de Bachar el-Assad. Sauf qu'effectivement, les Syriens n'avaient pas accès au lac de Tibériade, qui aujourd'hui est un réservoir immense, avant que l'eau continue sa route vers la mer Morte. Donc pour les Syriens, c'était inacceptable de ne pas avoir leur part, finalement, de ces eaux. Et donc c'était une proposition qui avait peu de chances, finalement, d'aboutir. Mais donc voilà la question, on peut toujours trouver des solutions techniques, des accords techniques, même si je retiens aussi une chose, c'est que la proposition Johnston est implicitement aujourd'hui acceptée par les États qui plus ou moins respecte les normes qui avaient été fixées de répartition par Johnston.
Alors on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur cette proposition de Johnston et on fera un état des lieux des négociations en cours. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Fadi Comer et Pierre Berthelot dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le changement climatique et l'hydrodiplomatie au Moyen-Orient. Nous retrouvons nos invités, Fadi Comer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau, président de la commission de négociation pour le Jourdain et l'Oronte, auteur de Gestion et hydrodiplomatie de l'eau au Proche-Orient, paru aux éditions L'Orient le Jour, et Pierre Berthelot, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur de géopolitique, directeur de la revue Orient Stratégique et auteur de Le Jourdain, entre guerre et paix, paru aux presses universitaires de Bordeaux. Pierre Berthelot, on l'évoquait en première partie d'émission, donc le cas du Jourdain qui met en scène cinq acteurs, on l'a dit, Israël, la Cisjordanie, le Liban, la Jordanie et la Syrie. On évoquait la proposition Johnston dont les négociations ont démarré en 1952 pour aboutir en 1954. De quoi est-il question et qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire des négociations entre les parties que j'évoquais à l'instant sur la question du bassin transfrontalier, le bassin du Jourdain, à proprement parler.
Pierre Berthelot. Qu'il y a un accord implicite des grandes lignes de la proposition de Johnston, à tel point qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'au Liban Sud, par exemple, c'est difficile de mettre en place des projets hydrauliques, parce qu'il y a toujours cette épée de Damoclès israélienne qui dit « attention, si vous construisez un barrage ou un projet et que ça affecte notre part, entre guillemets, des eaux du Jourdain, eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est quand même problématique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'état des négociations aujourd'hui, eh bien effectivement, il n'est pas bon. Il y avait eu une avancée, effectivement, à Oslo entre Israël et Palestiniens. Et je rappelle juste que le processus d'Oslo, il y avait cinq thèmes majeurs qu'on connaît tous, Jérusalem, les réfugiés, les frontières, la sécurité et les colonies. Et on avait même ajouté la thématique de l'environnement et de l'eau, qui était entre guillemets la sixième composante de ces négociations. Et puis, on n'a pas beaucoup avancé parce que finalement, le processus est plutôt contrôlé par les Israéliens, même s'il y a un comité conjoint de gestion des eaux en principe israélo-palestinienne, puisqu'il faut rappeler que la complexité, c'est que l'eau que reçoivent les Israéliens, comme on l'a dit, c'est une eau du Jourdain, certes, donc les pays d'amont sont, on l'a dit, le Liban et la Syrie, mais elle reçoit aussi beaucoup d'eau souterraine. Et ces eaux souterraines qui vont s'écoulent vers Israël, d'où elles proviennent principalement des territoires palestiniens. D'accord ? Et ça, c'est un enjeu majeur des négociations, et ça achoppe finalement sur ces deux enjeux, pas uniquement le Jourdain lui-même, la répartition avec Israël et le Liban, mais aussi ces eaux souterraines. Les Palestiniens veulent avoir leur part, ils estiment qu'aujourd'hui ils ne l'ont pas, puisque dans les territoires palestiniens, quand vous voulez forer un puits, bah c'est sous contrôle militaire israélien, c'est très difficile, et donc ça c'est un enjeu, et les Israéliens craignent de leur côté que s'ils rendent les territoires palestiniens, eh bien ils soient d'une certaine manière peut-être privés d'une partie de ces eaux. Donc une crainte peut-être irrationnelle, mais en tout cas un argument qui est avancé par les Israéliens dans les négociations. Et puis, on sait très bien que le problème avec les Palestiniens, c'est qu'ils sont divisés. Donc vous avez certes un gouvernement reconnu par la communauté internationale avec Mahmoud Abbas, mais à côté de ça, vous avez le poids du Hamas, qu'on ne peut pas négliger, très puissant à Gaza, pas totalement absent dans les territoires de Cisjordanie. Donc cet acteur, lui, il condamne les négociations dans l'essentiel qui aboutissent à une reconnaissance de facto de l'État israélien. Pour lui, seule une négociation basée sur une création préalable d'un État palestinien indépendant peut éventuellement aboutir à des négociations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'impasse. Le seul État avec qui il y a des négociations, comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est avec la Jordanie. Mais là aussi, c'est pas non plus excellent Il y a eu un accord qui a été trouvé, mais qui n'est pas totalement respecté du point de vue des Jordaniens par les Israéliens.
Donc une situation extrêmement complexe. Alors la Convention des Nations Unies de 1997, qui propose un mode de gestion par coopération régionale sur les cours d'eau internationaux, elle sert probablement de cadre. J'ai cette question. Israël parvient avec les avancées technologiques à une certaine indépendance en termes d'eau douce. On avait imaginé, la question qui se posait pour ceux qui observent et analysent la situation sur place, un assouplissement possible de la position israélienne grâce à cette plus grande autonomie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette perspective, Fadi Comer?
Quel est le choix que nous avons sur le bassin du Jourdain? C'est de continuer dans la culture de la violence, la culture de la gestion militaire du Jourdain, la gestion hégémonique du Jourdain, ou bien de lancer une dynamique de paix et de favoriser la culture de la paix sur ce bassin qui est partagé par 5 nations. Le Liban a toujours voulu initier une hydrodiplomatie active sur le Jourdain. Et dans ce cadre-là, le Liban a déjà proposé donc une idée, c'est de combiner toutes les eaux, même le dessalement des eaux de mer, même un nouveau projet que la Jordanie est en train d'entamer avec Israël, c'est de relier les deux mers, la mer Rouge et la mer Morte, afin de mobiliser un apport supplémentaire en eau. Cet apport supplémentaire devrait être partagé par tous les pays. Quand on sécurise sur le plan gestion de l'eau, ces pays-là qui passent par un stress hydrique, il va falloir donc d'un autre côté rendre les territoires occupés aux pays arabes et notamment au Liban. Il y a 2 territoires qui sont actuellement occupés, c'est le plateau du Golan qui constitue 20% de l'apport de l'eau d'Israël et il y a les hameaux de Shebaa qui aussi constitue à peu près 20% de l'apport en eau qui va en Israël. Ces 2 territoires occupés devraient être rendus avec un apport qui est mobilisé avec les nouvelles technologies qu'Israël est en train donc d'utiliser. À Ashkelon, actuellement, Israël est en train de dessaler à peu près 500 millions de mètres cubes d'eau dans ce processus de dessalement. Et voilà, peut-être un jour, d'ici quelques années, le projet Red Dead verra le jour. Il y aura 1 milliard de mètres cubes d'eau qui seraient mobilisés. Et le Liban a toujours appuyé ces initiatives.
Alors Red Dead, juste pour nos auditeurs, il est question de la mer Rouge pour Red Sea,
voilà,
et de la
Dead Sea, la mer Morte. Il y a donc une volonté de la part du Liban d'appuyer ces projets et une volonté aussi de réglementer et de favoriser l'application de la Convention des Nations Unies. Cette Convention des Nations Unies stipule qu'il va falloir partager l'eau d'une façon équitable. La notion d'équitabilité est une notion très importante. Par exemple, Pierre a soulevé le problème des Palestiniens. Les Palestiniens, la location quotidienne pour un Palestinien est de 30 litres par jour, tandis qu'en Israël, elle y va jusqu'à 400 litres par jour. Donc le partage n'est pas équitable non plus. Et l'utilisation raisonnable, là je reviens à l'utilisation irraisonnable de l'irrigation. Donc c'est là où les pays arabes gaspillent énormément à cause du mode d'irrigation qu'ils pratiquent. Donc il va falloir tout d'abord voir comment appliquer cette convention entre techniciens et puis après passer à la politique en disant aux politiciens, voilà un projet qui tient à la route entre les pays riverains, qu'on pourrait donc avec ce projet voir le monde arabe dans une mouvance pour la paix avec Israël.
Alors la question du bassin du Jourdain, elle est évidemment à la pointe de toute l'actualité. Je veux dire, aucune situation dans le monde ne retrouve cette complexité. Pierre Berthelot, je me tourne vers vous. Là, mélange de beaucoup de choses, le politique, la question du respect, du droit international. Enfin voilà, c'est une mise en question de beaucoup de dossiers. Alors, la Red Sea, donc mer Rouge, mer Morte, cette idée de canal, elle est vieille de 50 ans à peu près. L'idée étant bien sûr de sauver la mer Morte et d'alimenter suffisamment la Jordanie en eau potable. Un commentaire, Pierre Berthelot, sur...
Oui, ce projet, il est très médiatisé, mais bon, il est critiqué par des écologistes, y compris israéliens, qui vous disent qu'il peut y avoir un impact sur l'écosystème. Donc ça, c'est une première chose. Il est critiqué pour son coût, qui se chiffrerait en milliards de dollars. Et donc, c'est toujours la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, avant d'amener de nouvelles sources en eau, commencer plutôt par être un peu plus économe, un peu plus rationnel dans sa gestion de l'eau. Effectivement, est-ce que ça vaut la peine de cultiver certaines productions, notamment en Israël, alors que finalement leur prix de revient est extrêmement élevé, sont pas toujours forcément rentables. Et troisièmement, il y a un risque sécuritaire parce que ces infrastructures risquent peut-être d'être menacées par des attaques de mouvements radicaux dans la région. Et quatrième problème, le problème politique, puisque finalement ce canal qui envisagerait donc de ramener de l'eau et qui en plus ferait, c'est intéressant vu les fonctions de Fadi, de l'hydroélectricité, puisqu'on envisage de mettre un barrage qui finalement tournerait grâce à l'énergie de l'eau qu'on amènerait de la mer Rouge. Mais politiquement, donc, Israéliens, Jordaniens, grosso modo, sont d'accord. Mais le troisième acteur riverain de la mer Morte, c'est les Palestiniens. Et les Palestiniens, aujourd'hui, sont divisés sur le sujet. Autant l'autorité palestinienne est plutôt conciliante par rapport à ce projet, autant, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait du Hamas. Pour lui, ce serait une reconnaissance de facto. Pourquoi pas, mais le jour où ils auront rendu les Israéliens les territoires. Et imaginez que le gouvernement change avec de nouvelles élections au niveau des Palestiniens. On va lancer un projet alors qu'une des trois parties majeures ne serait pas d'accord. C'est quand même assez compliqué.
On sait très bien, Marie-France, qu'avec l'explosion démographique dans la région, on est obligé, en tant qu'ingénieur, de penser à des projets afin d'augmenter l'apport en eau pour la gestion de la demande. C'est la raison pour laquelle, après la crise du Wazani, qui a eu lieu en 2002, le Liban a voulu installer trois pompes sur le fleuve du Hasbani-Wazani pour pomper 6 millions uniquement de mètres cubes d'eau.
Donc en amont du Jourdain, hein, on est
voilà,
bien d'accord,
sur le Jourdain. Or, l'accord, le projet de Johnston avait alloué au Liban 35 millions de mètres cubes d'eau. Israël a menacé de détruire le Liban. Donc dans le rapport qu'on a envoyé aux Nations Unies, à l'époque il y avait Kofi Annan, secrétaire général, on a plaidé aussi pour la construction d'un barrage, qui est le barrage de Blessaki, sur le Hasbani, Wazani, le Jourdain amont, afin de réguler le Jourdain aval aussi. Et c'est là où il y aura aussi une installation hydroélectrique en dessous de ce barrage-là. Donc on a besoin de mobiliser de l'eau. Le Liban a besoin de mobiliser de l'eau. La Syrie a construit 40 barrages sur le Yarmouk aussi. Et Israël et la Jordanie ont besoin de lancer ce grand projet, car la Jordanie est en train de puiser dans les nappes fossiles le projet de Dizi, que la France a aussi financé, que la France a conçu, c'est Suez qui a conçu le projet de Dizi, qui se situe à 250 kilomètres d'Amman pour alimenter la ville d'Amman en eau potable. Donc tous les pays ont besoin de lancer une dynamique technique autour de l'eau dans le Jourdain. Reste le volet politique, certes, qui a été présenté par Pierre, mais quels sont nos choix ? Est-ce que on continue avec un choix de destruction, de conflit, un choix militaire, et peut-être voire même un jour l'eau sera la cible des terroristes si le partage équitable n'est pas appliqué entre les Arabes et Israël, ou bien on lance une dynamique de paix basée sur la Convention des Nations Unies. Nous avons pratiqué cette convention et on a eu une soixantaine d'années de discussions et de négociations avec les Syriens. On a pu aboutir à un arrangement gagnant-gagnant qu'en appliquant cette convention. Donc là, je lance un appel pour que les pays qui n'ont pas ratifié cette convention la ratifient, parce qu'il y va de l'avenir des générations futures.
Alors on l'a bien compris, hein, cette relation difficile, complexe, compliquée entre les pays d'amont, Pierre Berthelot, et les pays d'aval. Pourtant il y a des exemples, je pense au Nil, où un accord a pu être trouvé entre Égyptiens et Éthiopiens, plus compliqué pour le bassin du Jourdain. Et j'en viens, pour aller plus loin et terminer peut-être cette émission, sur ces appels à ce que le Conseil de sécurité proclame l'eau comme bien stratégique de l'humanité, et non pas seulement comme une question des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça changerait, Pierre Berthelot ?
Déjà, beaucoup ont appelé à ce que l'eau soit considérée comme un patrimoine commun de l'humanité. Donc, ça fait un peu écho à cette idée. Un bien stratégique, eh bien, peut-être justement, ça obligerait certains États à faire peut-être plus attention, justement, lorsqu'ils menacent d'utiliser l'eau à des fins politiques, militaires, de représailles, comme on l'a notamment évoqué. Lancer un signal d'alerte, surtout dans ce contexte, on l'a dit, du Proche-Orient assez éruptif. Donc ça va peut-être amener certains gouvernements à réfléchir à deux fois. Il ne faut pas oublier aussi que l'eau a besoin donc de financement, on l'a dit. Les projets qu'on a évoqués coûtent souvent des sommes assez astronomiques. Financements internationaux, donc ce serait aussi faire pression sur les États avec une double menace. D'un côté, peut-être qu'ils soient poursuivis, pourquoi pas peut-être devant la Cour pénale internationale. Ça serait une première chose. Et deuxièmement, qu'ils puissent être privés de financement au cas où ils ne respecteraient pas l'eau, justement, comme bien stratégique. On a vu que récemment, même le fait de détruire des patrimoines archéologiques a été reconnu comme un potentiel crime contre l'humanité. Donc là, peut-être qu'il y aurait une pression qui amènerait, on peut l'espérer, comme le dit Fadi, à peut-être être plus raisonnable et à aller plus en avant vers la coopération, en tout cas à respecter davantage cette ressource et à éviter de lancer des attaques souvent aveugles, indiscriminées, contre des installations hydrauliques, ce qui peut amener peut-être ces États à être poursuivis, justement, pour violation du droit international humanitaire, qui fait déjà un rappel sur cette question de l'eau, hein, dans les conventions de Genève. Mais là, on mettra encore plus l'accent là-dessus. Donc peut-être qu'on va y réfléchir à deux fois, d'autant plus que la convention de 97 de New York, qui prône donc cette utilisation équitable et raisonnable, donc qui va fêter son 20e anniversaire, eh bien le problème, c'est qu'elle est relativement encore peu appliquée, parce que les États, finalement, signataires, restent assez peu nombreux. Il y a une trentaine de ratifications, donc on a pu la mettre en œuvre parce qu'on a obtenu le nombre de signatures minimum, mais beaucoup d'États ne sont pas membres. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ils regardent cette convention de New York avec intérêt, mais ils se sentent pas liés. Alors que là, insister sur la dimension bien stratégique, et comme en plus le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même, pour la première fois, a tenu une réunion spécifique sur ce sujet, alors peut-être que ça va inciter les États à réfléchir à deux fois avant d'utiliser l'eau comme arme de guerre, arme de représailles, arme de conflit.
Donc l'eau bien stratégique de l'humanité, alors je vous demande de rebondir Fadi Khomer, et effectivement on a vu le Conseil de sécurité, en tout cas le Sénégal qui présidait au mois de novembre les sessions et débats du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent, lancer une proposition de création d'un groupe des amis de l'initiative eau, paix, sécurité. C'est une trilogie qui montre tout de même l'importance que la question de l'eau est en train de prendre, Fadi Khomer.
On ne peut que saluer cette initiative de la part du Sénégal et du Conseil de sécurité. Et c'est une initiative, en fait, qui vise de sécuriser l'être humain, car l'eau est liée à l'alimentation. C'est une initiative qui s'inscrit parmi d'autres initiatives, celles que nous avons lancées l'année dernière, la veille de la COP avec l'UNESCO au Sénat sur le bassin de l'Oronde. Donc dans ce bassin-là, il y avait trois pays donc qui se disputaient l'eau de l'Oronde, la Turquie, la Syrie et le Liban. On est arrivé à un arrangement. Maintenant, on lance une autre initiative sur le Jourdain. C'est un contentieux qui date depuis 1948 entre Israël et les pays arabes. L'initiative du Sénégal vient donc pour sécuriser, réconforter donc ce que nous sommes en train de faire afin d'aboutir à une paix durable avec un développement durable des projets dans le cadre du bassin du Jourdain. Car si on ne sécurise pas les générations futures en matière d'eau domestique, en matière d'eau pour l'irrigation, on va laisser donc à ces générations un problème très complexe, surtout avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans le jeu politique du Moyen-Orient, tels que l'Iran, tels que aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec peut-être les mouvements islamiques qui sont très radicalisés et qui sont maintenant sur la frontière israélienne, Daesh et Al-Nusra. Donc il va falloir qu'on relance une dynamique, cette dynamique de paix, avec l'appui et les efforts de tous les pays du monde, afin que l'eau soit un bien universel.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Fadi Khomer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau, président de la commission de négociation pour le Jourdain et l'Oronte et auteur de Gestion et hydrodiplomatie de l'eau au Proche-Orient, paru aux éditions L'Orient le Jour. Pierre Berthelot, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur de Géopolitique, directeur
directeur de la revue Orient Stratégique et auteur de Le Jourdain entre guerre et paix, paru aux presses universitaires de Bordeaux. Et donc, je signale ce colloque au Sénat le 13 décembre prochain, hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Moyen-Orient, le cas du bassin du Jourdain. Et je signale cet atlas du Liban dans lequel il est effectivement question des fleuves en amont du Jourdain. L'atlas du Liban, les nouveaux défis, presse de l'Institut français du Proche-Orient. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. À samedi prochain.
Ministère de la Jeunesse et des